Bonjour Charlotte Thomas.
Bonjour, merci de me recevoir.
Quel est le thème de ce livre?
L'élément fondateur de cet ouvrage, ce sont les pogroms de 2002, donc des attaques anti-musulmans qui ont lieu en 2002 et qui ont fait 2000 victimes et 150 000 déplacés internes, principalement musulmans, dans un État qui s'appelle le Gujarat, qui était dirigé à l'époque par l'actuel Premier ministre, Narendra Modi. Donc à cet égard, c'est aussi un regard porté sur l'Inde contemporaine et l'Inde d'aujourd'hui et les pratiques de gouvernement du parti actuel au pouvoir. Et puis c'est aussi et principalement une ethnographie de ce que j'appelle donc un ghetto musulman, c'est-à-dire cette localité de Jhuapura qui est située dans l'état du Gujarat, dans la ville d'Ahmedabad, et qui rassemble à peu près 500 000 musulmans qui se sont regroupés dans cette localité suite aux violences de 2002, donc au pogrom.
Pourquoi Jhuapura plutôt qu'un autre ghetto musulman de l'Inde ?
Quand j'ai initié mes recherches en 2007-2008, je m'intéressais donc aux rapports entre hindous et musulmans en Inde et la façon dont ces rapports étaient gérés par le pouvoir politique. Et à cette époque, dans la presse, il y avait des articles de façon presque quotidienne sur les pogroms qui s'étaient tenus en 2002 à Ahmedabad. Et en fait, en filigrane dans ces articles, apparaissait le nom de Jhuapura comme d'un quartier principalement musulman qui avait grossi suite aux violences. Donc en fait, j'ai voulu m'intéresser à ce quartier parce qu'il n'était pas né d'un processus historique pacifique, mais justement de la conflictualité. Et c'est ça qui m'intéressait d'explorer suite aux attaques qu'elle avait subies en 2002.
En quoi Jhuapura est la métaphore de la politique du gouvernement hindouiste de Narendra Modi, comme vous l'écrivez ?
J'ai à cœur de dire que Jhuapura n'est pas toute l'Inde et l'Inde n'est pas Jhuapura. Je considère que le ghetto de Jhuapura est une métaphore de la politique, est une loupe posé sur la politique de Narendra Modi, au sens où, en 2002, l'objectif n'était pas tant de décimer toute la minorité musulmane de la ville, puisque de toute façon, numériquement, c'était impossible, puisque l'idée de Jhuapura, ce n'est pas de se passer des musulmans, puisqu'on a, économiquement, on a besoin des musulmans, d'une part au niveau national, mais aussi au niveau international, puisque l'Inde a comme pays très proche les pays du Golfe, avec lesquels elle commerce beaucoup, donc il n'y a pas intérêt à afficher une politique ouvertement anti-musulmane. Donc on a besoin de ces populations. Donc l'objectif était vraiment de terroriser pour que la population musulmane se rassemble dans un même lieu et que donc on puisse appliquer ce que je décris dans mon ouvrage, c'est-à-dire cette discrimination, non pas de juré mais de facto, politique en termes d'accès aux services publics. Le parti politique les discrimine au nom de cette idéologie de l'Hindutva qui fait que le musulman est un citoyen de seconde zone. Donc on ne va pas lui apporter des services publics, on ne va pas mettre en œuvre de création d'écoles, de création d'éclairage public, d'hôpitaux publics, tout ça. Donc c'est à cet égard, en fait, que je considère que Jhuapura est une loupe, c'est-à-dire on conserve cette minorité dont on a besoin quoi qu'il arrive. En revanche, de facto, elle n'a pas accès aux mêmes services auxquels les concitoyens hindous ont accès.
La partie la plus passionnante de votre ouvrage est celle où vous racontez la résistance des habitants de Jhuapura contre l'oppression. Quelle forme prend cette résistance ?
Je m'inspire des travaux de Michel Foucault dans sa conception du pouvoir, au sens où un pouvoir ne s'exerce pas seul, mais il s'exerce sur des gens, enfin sur une population donnée, et cette population, au sein de ce pouvoir, peut aussi développer des outils et développe des outils, des tactiques de résistance. Donc ce nouvel état d'esprit est nourri aussi par l'arrivée des classes supérieures qui ne veulent pas vivre dans ce que vous avez décrit en début d'émission, qui était donc un ghetto, donc ne veulent pas vivre dans ces conditions-là, c'est-à-dire sans école, sans dispensaire, sans éclairage public. Donc ces castes ont développer le quartier, et il y a eu un espèce d'effet d'entraînement également aussi, alors idéologique le mot est trop fort, mais d'état d'esprit, où chacun doit compter sur soi, avec la solidarité de la communauté d'habitants, hein, bien sûr. Les habitants se développent, décident de s'éduquer plus qu'ils ne faisaient auparavant, notamment chez les femmes, et puis également à se préparer aux examens à la fonction publique, par exemple, parce que la minorité musulmane, globalement en Inde, est plus dans des emplois privés, donc plus précaires. Et donc, essayer d'accéder à la fonction publique, c'est se garantir des emplois. C'est un blessing in disguise, comme le disent les habitants eux-mêmes, c'est-à-dire que de cette contrainte, ils essayent de faire une ressource et de se développer par eux-mêmes. Ce qui est toujours le cas, parce que je suis toujours très en contact avec les habitants de Jhuapura que j'avais rencontrés, et j'y étais encore en fin 2016. Cet état d'esprit est toujours très présent, et notamment l'éducation. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important.
Merci infiniment.
Merci à vous.